Bonjour à tous, la plupart du temps je vous parle de ma famille dans des exemples. J'essaie cependant d'englober plusieurs aspects pour que ça puisse correspondre aux choix tous différents de chacun d'entre vous. Cette fois-ci, je vais procéder différemment. Je vais vous dévoiler mes sentiments les plus profonds par rapport à l'école et ce pourquoi je préfère que mes enfants n'y soient pas. Je vais vous donner la vision que je me suis construite au fur et à mesure de cette institution et des prises de conscience successives. Tout d'abord en tant qu'élève, puis professeur des écoles, et enfin à travers mes lectures, mes rencontres, des expériences vécues, et bien sûr grâce à ma sensibilité de maman. Je vais dire les choses simplement, sans détour. Ce n'est pourtant pas une accusation ou un jugement, mais tout simplement un constat. Ce n'est pas de la haine qui guide mes mots, mais plutôt l'amour de l'humain, de l'individu ou de l'individualité, de sa force d'apprentissage, l'amour de la liberté et l'envie de respect des choix individuels. Une petite parenthèse pour les enseignants et autres salariés de l'éducation nationale. J'ai conscience que vous êtes au service de cette institution et que vous faites au mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. Comme un parent fait du mieux qu'il peut avec ses enfants, avec son vécu, ses émotions. Je crois en l'humain et je pense qu'il est bon par nature. Il est vrai que j'ai croisé des personnes malveillantes, cependant pas plus qu'ailleurs, lorsqu'on parle d'enfants. Nous avons tous nos casseroles, bien sûr. Je vais donc parler du contexte général et pas des personnes qui y travaillent. D'après le docteur Robert Butler, l'agisme est un processus par lequel les personnes sont stéréotypées et discriminées en fonction de leur âge et qui s'apparente à celui du sexisme ou du racisme. Certes, nous pouvons y avoir recours dans nos familles, car c'est ancré depuis tellement longtemps que ça peut passer inaperçu. Mais à l'école, on ne peut pas passer outre. L'organisation de celle-ci fait que ça ne peut pas être autrement. Les enfants sont répartis par tranches d'âge, car on part du principe qu'ils seront plus identiques par rapport au comportement et aux apprentissages, et donc que ça sera plus facile. Ainsi, l'enfant aura le droit de faire la sieste en petite section, voire en moyenne section, mais pas après. Et si en petite section, il ne désire plus la faire, eh bien, c'est pas grave, il ira reposer quand même, un petit peu, avec les autres, même s'il n'en a vraiment pas envie. De plus, un élève doit entrer dans la lecture dès son entrée en CP. On va tout faire pour, en tout cas. Tu n'es pas prêt pour la lecture? Ça ne t'intéresse pas? Ne t'inquiète pas, nous allons faire du soutien avec toi. Tu vas en faire encore plus que les autres. Ce qui peut avoir pour conséquence de dégoûter un enfant de la lecture parce qu'il n'est pas prêt. Pour quelques années, voire pour toute sa vie, il sera qualifié de mauvais lecteur. De façon générale, les enfants sont coupés de la société active dès qu'ils sont à l'école. Ils n'ont pas de contact avec le monde du travail. Les raisons évoquées peuvent être diverses, mais c'est de l'agisme. Vous allez me dire, mais on n'a pas le choix, ça peut être dangereux, j'ai vraiment besoin de me concentrer. Et oui, tout à fait, vous avez raison, tout est fait pour que nous n'ayons pas le choix. Mais il existe des cultures où ça ne se passe pas comme ça, où les enfants sont présents, participent ou vaquent à leurs occupations. De plus, je vous rappelle que l'école est récente au regard de l'humanité. Avant, on s'organisait autrement. Donc oui, aujourd'hui c'est beaucoup plus dur à mettre en œuvre. Mais nous pouvons faire le choix de ne pas faire subir cette discrimination à nos enfants, au moins en partie. Je dis à nos enfants, mais je peux dire à nous-mêmes. Car moi aussi, je souffre d'être obligée d'être séparée de ma famille, si je n'en ai pas envie et si j'ai besoin de contact. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet de l'agisme, je vous conseille le livre Delphi Reboulot. En ce qui concerne la nature, c'est vrai que nos enfants ne sont scolarisés que 4 jours par semaine et qu'il en reste donc 3 pour profiter du dehors. Mais il me semble que la nature est LA source inépuisable d'apprentissage. Nous devrions tous pouvoir en profiter le plus possible. Nous en avons besoin. Et puis, en plus du rythme scolaire, il y a le rythme des parents. Parfois épuisant, qui ne permet pas de profiter de la nature autant qu'il faudrait. Nous sommes des animaux. La nature est notre élément par définition. Nous en faisons partie. C'est notre ancrage, notre ressource, notre source d'énergie. Et regardez une cour d'école. C'est souvent recouvert de béton, avec parfois quelques arbres, quand on a de la chance. Les enfants passent donc leur journée enfermés ou dans une cour asphaltée, sans possibilité de toucher un élément naturel. Personnellement, ce n'est vraiment pas possible pour notre famille, nous qui vivons dehors. Nous voyons tout ce que nos enfants apprennent dehors, comment ils évoluent, grandissent, respectent leur environnement. Nos valeurs ne sont pas compatibles avec l'absence d'éléments naturels, ne serait-ce que 4 jours par semaine. Au vu des évaluations, ce qui est demandé en priorité aux élèves, c'est de savoir lire, écrire, compter. Les sciences sont abordées, un peu de musique et d'art, mais pas trop quand même, on sait jamais. Par contre, tout ce qui est relations sociales, gestion des émotions, responsabilisation, respect des autres et de son environnement, confiance en soi, empathie, écoute, tâtonnement expérimental, et j'en passe, est tout bonnement pas abordé. peut-être parfois survolés, mais surtout bafoués. Eh oui, mais c'est que les programmes sont costauds à suivre et laissent peu de place à tout ça. Seulement, pour notre famille, c'est ça les fondamentaux. Les bases de toute vie épanouie, équilibrée, respectueuse de soi, des autres et de son environnement. On parlait aussi des cours bétonnés. Le manque de contact avec la nature empêcherait le cerveau droit de se développer correctement. Le cerveau droit est le cerveau de l'intuition, de la créativité, des émotions, de la spiritualité et de l'impulsivité. Donc les programmes et l'organisation de l'école, sans contact avec la nature, nuiraient au développement du cerveau droit. Thierry Pardot en parle très bien dans son livre « Une éducation sans école ». Nous ne voulons pas que nos enfants se définissent suivant une norme, qu'ils se croient différents, mauvais ou même supérieurs. Nous souhaitons qu'ils soient eux, tout simplement, et ce sera très bien, parfait comme ça. Leur individualité sera respectée, accompagnée, chérie, encouragée. Évaluer. Quel mot empreint de supériorité selon moi. Il m'évoque du jugement lorsqu'on parle de l'évaluation d'un élève dans le but de renseigner son niveau. Comment peut-on évaluer les connaissances, les apprentissages réalisés de quelqu'un? Ça me paraît absurde. Évaluer selon une norme, un modèle, une attente. Une chose que l'enseignant peut évaluer assurément, c'est l'aptitude de l'élève à fournir une production qui correspond à une attente. Mais comment évaluer le niveau d'un enfant? Encore faudrait-il pouvoir prendre en compte des éléments aussi instables que l'état émotionnel dans lequel se trouve l'élève au moment de l'évaluation? Comment ça influe sur lui? Ou savoir si ses besoins physiologiques sont bien comblés? Je sais pas vous, mais moi je me concentre pas de la même façon si j'ai faim ou si j'ai envie de faire pipi. Et quelles sont les intelligences de l'enfant évalué? Si ce dernier point était pris en compte, on n'évaluerait pas tous les enfants de la même manière. De plus, l'état du correcteur est également à prendre en compte. Et tellement de choses qui rendent l'évaluation objective impossible. L'évaluation, telle qu'elle est faite dans les écoles, ne sert qu'à augmenter le stress des enfants et donc à diminuer leur capacité d'apprentissage. Elle sert à ce que les enfants se comparent. Rappelons-le sur des critères dénués de sens et donc de faire disparaître leur propre estime de soi. À force d'être évalués, qu'on leur dise sans cesse ce qu'ils valent, les enfants ne savent plus dire s'ils sont fiers de ce qu'ils ont réalisé, si leur travail est achevé et s'il est satisfaisant à leurs yeux. Ils ne se rendent plus compte qu'ils sont les seuls à pouvoir pleinement ressentir s'ils savent, s'ils veulent continuer leur apprentissage. Qu'ils sont les seuls à pouvoir s'auto-évaluer tout simplement. On leur enlève ce pouvoir qu'ils ont sur leur propre vie. On en arrive à penser des choses comme « je suis nul en maths » alors que c'est peut-être simplement parce que la manière de nous approprier cette notion nous a été imposée. À un moment choisi et que ça ne nous convenait pas ainsi. Il existe tellement de cerveaux différents, de façons de fonctionner, d'apprendre, de s'épanouir. Comment quelqu'un d'extérieur à notre cerveau peut nous évaluer correctement et en toute objectivité? Je ne dis pas que le non-recours à l'évaluation est possible à tous les niveaux, mais je trouve franchement que c'est trop, trop souvent, trop systématique, trop, trop et trop à l'école. Je souhaite que mes enfants soient seuls juges, dans un premier temps, de leur savoir, de leur production, pour qu'ils deviennent autonomes et responsables dans leurs apprentissages. Faire les choses pour soi-même sans attendre de reconnaissance. J'avoue que ça me fait rêver et j'en suis loin. Une petite citation pour finir sur l'évaluation. Comment évaluer le temps perdu à parler de l'évaluation? Pour parler des besoins physiologiques de l'enfant à l'école, je vais juste vous donner quelques phrases, je suis sûre qu'elles vous diront quelque chose. Si c'était pour dormir, t'aurais mieux fait de rester chez toi. Allez, réveille-toi et mets-toi au boulot. On vient de rentrer de récréation, tu pouvais pas voir avant? Bon bah maintenant t'attends, tu iras à la prochaine récréation.
Oui, mais il y avait qu'un seul robinet dans la cour et il y avait la queue, du coup j'ai pas eu le temps d'y aller pendant la récréation.
Tu peux attendre 5 minutes avant d'aller aux toilettes, ça va bientôt sonner.
Ça fait déjà 20 minutes que j'ai très très envie et là j'ose juste demander, je sais pas si je vais pouvoir attendre 5 minutes de plus.
Allez, concentre-toi un peu, tu peux y arriver, hier t'as très bien compris. Je suis sûre qu'aujourd'hui tu peux y arriver aussi.
Ouais, mais j'ai trop faim, j'arrive pas à me concentrer.
Est-ce que vous pensez que l'école est un lieu social? Souvent, les gens me demandent « Vous n'avez pas peur qu'ils ne soient pas sociabilisés ?»«
Comment dire ? Non, je n'ai pas peur. J'aurais plutôt peur de l'inverse s'ils y allaient. »
Bon, je m'explique. Une salle de classe, c'est petit. Et les enfants, ils sont nombreux. Ils ne choisissent pas leurs compagnons de classe et parfois même pas leurs voisins. Ils ne peuvent pas bouger ou très peu. Leur espace vital ne peut pas y être respecté vu le nombre d'habitants au mètre carré. Et la cour de récréation, c'est guère mieux. Il y a ceux qui courent, qui hurlent, ceux qui ont besoin de calme, ceux qui ont faim, ceux qui veulent jouer aux cartes, à l'élastique, au ballon, quand c'est autorisé, les introvertis, les extravertis, les dominés, les dominants, et tout ça dans le même espace clôturé, bétonné, exigu, auquel on ne peut pas échapper. Mais les adultes sont là pour gérer tout ça. Ah bon? Mais comment est-ce qu'il ferait? Il mélange les besoins, les envies, et après il les redistribue pour que tout le monde ait les mêmes? Une sorte de moyenne des besoins, en quelque sorte. Désolée de vous dire ça, mais même avec la meilleure volonté du monde, ils n'y arriveront pas. Et j'y arrivais pas non plus quand j'étais dans les cours de récréation. C'est le lieu idéal pour sentir des malaises et des sentiments d'oppression. Pour avoir envie d'apprendre, il faut que ça ait du sens, que ça serve à quelque chose, quoi. Durant ma formation de professeur des écoles, j'ai entendu au moins une fois par semaine « il faut donner du sens aux apprentissages ». Et je ne vous dis pas pour donner du sens à des notions entre quatre murs, je me suis littéralement arraché les cheveux. Et puis, ce qui a du sens pour moi, ce qui va me motiver à apprendre, ce sera potentiellement différent de ce qui a du sens pour mon voisin. Du coup, ça, multiplié par 30, dans une salle de classe de 70 mètres carrés, je vous laisse vous faire une idée. Alors que lorsqu'on est présent à la vie, lorsqu'on a un contact avec la nature environnante, tout prend sens. Les questions fusent, les opportunités d'apprendre pleuvent. Il suffit d'être attentif, réactif, disponible. En fait, je dis ça, mais je me rends compte que même quand je ne suis pas disponible, ça n'empêche pas mes enfants de se poser des questions, de vivre, d'apprendre, de faire plein de choses. Ils mettent des stratégies en place, ils testent, ils expérimentent, ils réorganisent, ils apprennent, même sans moi. En quelques mots, j'ai conscience qu'il se passe aussi des belles choses à l'école. Mais pour toutes ces raisons-là, je ne souhaite pas ça pour mes enfants. J'ai fait le choix, enfin nous avons fait le choix, de nous organiser afin de leur permettre de ne pas y aller tant qu'ils le souhaiteront. Nos enfants ont également cette conscience qu'il y a des avantages à aller à l'école, des inconvénients à ce que leurs copains y allent et pas eux, car ils n'ont pas le même emploi du temps. Ils voient aussi l'importance à pouvoir choisir par eux-mêmes, en fonction de leur centre d'intérêt, à ce que leur individualité soit respectée. Ils aiment ne pas être obligés de répondre à une norme. J'aime les voir vivre et grandir ainsi. Et plus nous avançons sur ce chemin, plus ça devient une évidence pour nous. J'espère que cette vidéo vous fera réfléchir. Mettez un pouce si vous aimez et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à très bientôt !